Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu de cette édition portant sur le coronavirus, le FMI annonce l'allègement de la dette dans 25 pays, l'ONU met en garde contre la désinformation, nous verrons l'impact du Covid-19 sur la production agricole au Sénégal avec la FAO, et en dossier la mise en place des certificats sanitaires électroniques dans le commerce aiderait à mitiger les risques de transmission de maladies des animaux à l'homme. Pour répondre à la crise générée par le Covid-19, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'approuver un allègement de la dette immédiat pour 25 pays, parmi les plus pauvres et les plus vulnérables, dont une majorité de pays africains. Un allègement de la dette qu'a justifié la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Les détails avec Jérôme Longuet.
Dans sa déclaration, la directrice générale du Fonds monétaire international explique que l'allègement immédiat de la dette décidé par les instances de l'Organisation financière internationale l'est au titre du Fonds fiduciaire réaménagé d'assistance et de riposte aux catastrophes, et ce pour aider ses États membres à faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Ainsi, les pays les plus pauvres et les plus vulnérables recevront des dons qui couvriront leurs obligations envers le FMI pour une phase initiale de 6 mois. L'objectif est de leur permettre de consacrer une plus grande partie de leurs faibles ressources financières aux soins médicaux et aux autres efforts de secours d'urgence vitale. Le fonds fiduciaire peut actuellement fournir un allègement du service de la dette sous forme de dons à hauteur d'environ 500 millions de dollars grâce aux engagements récents de plusieurs pays donateurs. Kristalina Georgieva exhorte d'autres pays à contribuer afin d'obtenir un allègement supplémentaire du service de la dette pendant au moins 2 ans. À noter que 20 des 25 pays bénéficiaires sont africains. Parmi eux figurent notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, Madagascar, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, la RDC, le Rwanda, le Tchad et le Togo.
Alors que le monde lutte contre la pandémie mortelle de Covid-19, la crise la plus difficile à laquelle nous ayons été confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale, nous assistons également à une dangereuse épidémie de désinformation. L'heure est à la science et à la solidarité. C'est le message qu'a lancé ce mardi le secrétaire général de l'ONU, un message d'avertissement contre la désinformation auquel adhère également l'UNESCO, soulignant l'importance de sensibiliser les communautés avec les bonnes informations pour obtenir de bons résultats. Edmond Moukala, représentant par intérim de l'UNESCO au Mali.
La pandémie Covid, à travers les différentes sources médiatiques et les réseaux sociaux en particulier, est une propagation de désinformation qui rend encore difficile pour les gens de trouver des informations précises. Une enquête, par exemple, récente sur les pays africains a montré en fait que sur 24% de l'échantillon interrogé pensaient qu'ils étaient immunisés contre le Covid-19. Seulement 50% des personnes interrogées ont déclaré avoir des informations sur la manière de se protéger et moins d'un quart de tous les répondants savaient que le lavage des mains était une mesure préventive importante. Donc nous on a jugé qu'il était très très important pour mener ce que nous reconnaissons tous être une guerre, s'assurer que l'information, la précision et surtout aussi la qualité de l'information est capitale pour améliorer les résultats que mènent les différents agents de santé à travers le monde.
La pandémie du Covid-19 entraîne également de nombreux changements en matière de production agricole. Entre les limitations de mouvement et les mesures de distanciation sociale, garantir la qualité des produits et leur disponibilité n'est pas une tâche aisée. Aboubakri Wad est un exploitant agricole à Nguéror, au Sénégal, qui a suivi une formation en micro-jardinage de la FAO. Il a dû trouver des solutions pour s'adapter à ces nouvelles circonstances et continuer à fournir de la nourriture aux populations locale.
Les mesures liées à l'état d'urgence actuellement en place au Sénégal ont changé ma manière de travailler. Il n'est plus possible d'aller au champ, donc j'y allais au moins 3 fois par semaine. Donc avec le Covid-19, il est recommandé de limiter les déplacements. Du coup, il est difficile d'avoir un œil sur la production que je faisais tout le temps. Il est difficile de vérifier la qualité et aussi donner des consignes aux ouvriers. Il a fallu installer un système de lavage des mains sur le champ et beaucoup insister sur les mesures d'hygiène. Les principaux obstacles sont l'interdiction de se déplacer et la difficulté de trouver des femmes acheteuses de produits que nous avions régulièrement. Les cultures comme les haricots verts ou le melon ou la cueille des piments, la récolte de l'oignon, la pomme de terre, c'est des cultures qui nécessitent beaucoup de bras et souvent ce sont des femmes qui le font, donc des femmes de la localité. Et bon là, comme il est interdit de se rassembler, de se déplacer, donc c'est difficile de trouver des employés pour venir récupérer la production, ce qui risque de pourrir sur place et vraiment c'est ce que nous tous comme producteurs nous déplorons actuellement. Mon métier d'exploitant agricole est plus important que jamais à l'heure actuelle parce que un métier essentiel au niveau de la population car nous devons assurer à nos compatriotes la disponibilité des produits qu'ils consomment au quotidien.
Les coronavirus, dont celui responsable de la pandémie de Covid-19, font partie d'une grande famille de virus qui sont communs chez les animaux et peuvent parfois être transmis à l'homme, un phénomène connu sous le nom de zoonose. Pour faire face à ces risques de transmission d'animaux à l'homme, les Nations Unies viennent à la rescousse avec l'adoption de normes numériques. Explication de Jean Rodriguez, porte-parole de la Commission économique de l'ONU pour l'Europe. Il est au micro d'Alpha Diallo.
Alors, il y a deux aspects. Un, l'utilisation de ces certificats permet de tracer le commerce et donc de limiter la fraude et de contrôler les exportations. Donc, et ça renseigne aussi des informations sur l'état sanitaire des animaux ou des plantes. Et puis, le deuxième aspect, c'est que ça permet de limiter les contacts physiques et donc il n'y a pas besoin d'échanger papier qui peuvent être eux-mêmes des supports éventuels de contamination de virus.
Et quand vous dites que ça lutte contre la fraude et la corruption, concrètement, ça veut dire quoi? Ça change quoi par rapport aux anciens dispositifs?
Alors, dans les anciens dispositifs, quand on veut exporter des animaux ou des plantes, on remplit des certificats, en général, qui doivent indiquer l'origine, l'état sanitaire et puis tout un tas de dispositions qui sont demandées par les pays exportateurs ou importateurs. Évidemment, si ça se fait par papier, il est relativement facile de falsifier ces documents, soit pour exporter d'autres espèces qui sont protégées, soit pour tricher sur les quantités, soit pour tricher sur les destinations, soit pour tricher sur beaucoup d'autres choses. Donc, une fois qu'on remplace ces procédures papier par des procédures électroniques, où on aura des messages qui vont être échangés par divers partenaires et les autorités, il est beaucoup plus compliqué d'introduire des éléments de fraude à n'importe quel bout de la chaîne. Donc, on a une garantie nettement supérieure sur, un, la partie fraude du produit en lui-même, quel est ce qu'on exporte, et puis, deux, ça a des conséquences sur le paiement des taxes, par exemple, les déclarations, le contrôle qui se fait comme quoi ces exportations sont des produits légaux, licites, et non pas des espèces protégées qui ne devraient pas être exportées, par exemple.
Et le but suprême, c'est pour lutter contre le trafic illégal des animaux, des espèces sauvages. Est-ce que le pangolin fait partie de ces animaux?
Ce n'est pas le but principal. L'utilisation de ces standards est tout d'abord pour le commerce légal d'animaux et de plantes tout à fait banales, et notamment tous les animaux de boucherie, etc. Ce que nous avons fait plus récemment, c'est ces accords et ces partenariats avec la CITES pour justement étendre l'utilisation de ces certificats à toutes les espèces qui sont protégées dans le cadre de la convention CITES. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement récent de ces dernières années.
Et ce dispositif concerne combien de pays? Seulement les pays membres de la CEONI ou bien c'est tous les membres des Nations Unies?
Non, ça concerne tous les pays membres des Nations Unies et dans le cadre des messages CITES, ça concerne les 182 et 3 parties à la convention CITES, par exemple. Ce travail de standard électronique pour le commerce, qui s'applique là aux produits agricoles ou aux plantes, est de manière générale ouvert à tous les pays membres de l'ONU.
Est-ce que c'est la pandémie de coronavirus qui a accéléré le processus?
Non, je ne dirais pas qu'elle a accéléré. Elle nous a mis l'accent sur ce phénomène. Nous communiquons à cette occasion maintenant, parce qu'il y a cette occasion et qu'il est important aussi de mettre en place des procédures informatisées et automatisées pour limiter les contacts physiques. Donc ça, c'est un des autres aspects de la situation. Le premier cas que nous mentionnons dans ce communiqué qui a eu lieu au Sri Lanka, il date du mois de mars, donc c'est quelque chose de très récent, qui est appelé à se développer et que nous appelons avec nos partenaires, la CITES et la CNUSED, à se développer davantage.
Cette histoire de Sri Lanka, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus clairement?
Alors, le Sri Lanka vient d'utiliser ces procédures pour la première fois pour l'exportation de plantes et d'animaux. Donc c'est un bon exemple d'un pays en développement qui ouvre la voie à l'utilisation de procédures électroniques qui remplacent ces certificats papier qui étaient en place jusqu'à présent et qui sont encore utilisés dans une grande majorité des pays.
Voilà la fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.